18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum du studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité au programme de studio Kalangou qui sont diffusés en direct par 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org, sur WhatsApp et sur Twitter. Aujourd'hui, le forum du studio Kalangou a pour thème la protection juridique des droits de l'enfant après le divorce des parents. En 2021, l'Association islamique du Niger a relevé plus de 3000 cas de divorce, mis à part ceux qui sont prononcés dans les tribunaux ou ailleurs. Et au Niger, en cas de dissolution des mariages ou d'une répudiation sans entente mutuelle des parents, l'enfant pourrait être confié à l'un ou l'autre des parents selon le code pénal. Il reviendra donc au juge aux affaires familiales de trancher sur la question de la garde des enfants selon le seul critère de l'intérêt des enfants. Pour ce qui est des cas de divorce traités à l'association islamique, il reviendra au service en charge de la question de trancher sur les modalités de la garde des enfants et le montant de la pension alimentaire. Pour en savoir plus sur la question, nous avons convié autour de la table Madame Saley Madougou Fatima. Elle est directrice de la protection juvénile au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Nous avons avec nous Monsieur Mamar Seydou Ibrahim. Il est assistant social au niveau du tribunal de l'arrondissement communal Niamey 5. Nous avons avec nous Oustaz Ahmadou Mustapha. Il est prédicateur et membre du Conseil islamique du Niger. Nous avons également avec nous Mahamadou Moussa de l'Association pour la lutte contre le travail des enfants, Alten. Au micro, je suis Rabia Meikanou. Avant d'entamer nos échanges, je vous propose de suivre le témoignage de parents confrontés aux problèmes de garde d'enfants et de pension alimentaire. On écoute.
Si tu as 6 ou 7 enfants, ou par exemple tu décides de verser par mois pour 6 enfants, ce n'est pas suffisant pour les nourrir, les soigner, les vêtir et payer leur scolarité. Et même si l'on convoque la personne à la justice, il ne rentre pas dans les délais pour faire la part des choses afin d'exiger une prise en charge conséquente. Pourtant, les juges savent que 2000 francs CFA par mois ne suffiront pas pour les 3 repas par jour, les frais de récréation des élèves, son habillement et ses soins de santé. Mais c'est tout ce qui est demandé au père.
Lorsque mon mari est venu, nous ne sommes pas compris. Il dit qu'il donnera que 5 000 francs CFA par mois, qu'il versera au niveau de la justice. C'est là-bas que je dois récupérer l'argent. Après que le juge ait rendu sa décision sur cette base, je lui ai dit que moi, je ne veux que mon acte de divorce. Une fois que j'aurai ce document en main, nous verrons s'il respectera ses engagements. Et dès le premier mois, j'ai été à la justice. Il n'a rien versé, car il n'y a aucune contrainte qui oblige la personne à le faire. La femme doit faire plusieurs tours à la justice pour qu'on constate la mauvaise foi de son mari et lui envoie une convocation. Sinon, on les laisse agir comme bon lui semble. Après 3 mois sans rien recevoir, j'ai dit au juge, si dès au début je vous avais précisé qu'en dehors de l'acte de divorce, je ne veux rien d'autre de lui, vous allez penser que je ne vous ai pas respecté.
Nous avons tout fait pour que le père reprenne ses enfants, mais il dit qu'il ne peut pas et qu'il ne va pas les prendre. Aussi, j'ai décidé de prendre en charge mes enfants, même si je dois travailler comme bonne. Actuellement, je prends en charge les frais de récréation des petits avec mon petit commerce. Et les plus grands m'appuient à travers la vente de nyam grillé et autres. Certes, ce n'est pas une vie luxueuse, mais nous arrivons tout de même à joindre les deux bouts avec le peu que nous gagnons. Et ils ne nous envoient rien. Même la nationalité que je l'ai demandé de faire pour notre enfant, qui fera le BPC cette année, a été objet d'un tiraillement entre nous. C'est difficilement que j'ai eu son acte de naissance et ensuite j'ai payé 5 000 francs CFA pour faire la nationalité à l'enfant.
Au vu de ces témoignages, Madame Saley Madougou Fatima, dites-nous comment la loi protège les droits des enfants qui se retrouvent entre deux parents divorcés. Bonjour.
Nous remercions les studios Kalangou pour nous avoir conviés à ces débats importants sur les droits des enfants qui sont des couches vulnérables. Il faut rappeler que le Niger a ratifié plusieurs conventions celle des Nations Unies, la CDE de 89, celle de l'Union africaine, la KDBE, Charte africaine des droits et des bien-être de l'enfant. Et à l'interne, nous avons une loi aussi sur les juridictions des mineurs de 2014. Donc tous ces textes concourent à la protection des enfants. Mais la loi sur l'organisation judiciaire actuellement en vigueur au Niger, celle du 1er juin 2018, en son article 106, dit que lorsque les juridictions prononcent les divorces ou constatent la répudiation, ils doivent statuer sur la garde des enfants, la pension alimentaire et les frais scolaires concernant ces enfants. Maintenant, dans la pratique, vous savez, la justice ne peut pas tout le temps être répressive. En matière de couple, il y a des enfants qu'il faut protéger, c'est des parents. Lorsque les juges confient la garde de l'enfant, et ça aussi, il faut nuancer. Avant, je parle sous le contrôle de Oustaz, on dit après 7 ans, l'enfant qui est avec la mère, on le reprend. Maintenant, c'est surtout l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est surtout les enquêtes sociales faites de deux côtés par les travailleurs sociaux. Il faut préciser qu'à la justice, nous avons des travailleurs sociaux actuellement. Avant, nous étions soutenus par le ministère de la Protection à travers les CEJUP. Mais depuis 2014, le ministère de la Justice a créé encore des services sociaux de juridiction. Donc, c'est ces travailleurs sociaux qui, sur ordonnance du juge chargé ou du juge d'instance dans les départements ou du juge des arrondissements communaux, parce qu'il faut préciser qu'à Niamey, nous avons 5 TAC. Qu'on appelle les tribunaux d'arrondissement communaux. Et dans chacun de ces TAC, nous avons un service social. Donc, c'est ces travailleurs sociaux qui sont chargés de faire des enquêtes sociales au niveau de 2 époux divorcés pour voir, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel des parents est apte à le recevoir. Donc, l'ancienne pratique qui consistait à dire à 7 ans, automatiquement, on le reprend. Chez le père ou chez la mère, ce n'est pas évident. Donc, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il faut regarder avant de confier la garde.
Alors, Oustaz Ahmadou Moussafa, au niveau de l'association islamique, qui traite également d'une grande partie des cas de divorce, comme le confirme le chiffre de 2021, mais que dit la religion sur la protection des droits de l'enfant qui se retrouve entre 2 parents divorcés?
Vous savez, madame, l'islam a traité ça depuis l'allaitement. Depuis l'allaitement, donc, l'islam a prévu effectivement en cas de rupture ou en cas d'un problème entre le couple. Le droit, là, commence à partir de là-bas. Donc, entre la mère qui allaite et l'enfant, on a le droit d'être bien nourri, d'être bien entretenu par les pères de l'enfant. À partir de l'allaitement, qui dure 2 ans. Donc, c'est la protection, si vous voulez, biologique même de l'enfant, de sa croissance, avant même le divorce. Donc, on prévoit à tout moment que l'homme ou le mari a le droit en islam de divorcer à tout moment. C'est pourquoi l'islam a amené ces versets-là. En cas de divorce, c'est-à-dire, elle allait déjà et il a divorcé. Soit là, elle peut le garder. L'islam a autorisé. Donc, il faut lui donner son salaire pour qu'elle donne, effectivement, l'allaitement normal à son enfant.
Ouais.
Donc, donner leur, c'est la protection de la mère qui, c'est la suite de l'autre verset que je vous ai dit. Donc, c'est la protection de l'enfant. Il ne faut pas qu'il ait, la rupture du lait.
La rupture du lait maternel.
Oh, c'est pas possible. L'islam a dit qu'il faut les payer leur salaire. Et ces salaires-là, les mêmes versets, il a dit que vous allez vous entendre entre la femme divorcée, votre femme qui vous a divorcée. Dans les tribunaux tout à l'heure, il y a une femme qui a parlé, qui disait que 2000 francs, ça ne suffit pas, des trucs 3000. Bon, le montant symbolique qu'on dit là, en islam, c'est pas symbolique, c'est un montant suffisant. C'est un montant, c'est un salaire. C'est à la femme de le préciser.
D'accord.
Non, moi, je ne donne pas mon lait. Tant qu'on ne me donne pas tant de choses.
Okay. Déjà, sur le lait maternel, nous avons un montant qu'on doit donner à la mère pour garantir
la régularité
de l'allaitement.
Mmh.
Alors là, on va revenir sur ce point.
Mmh.
Monsieur Mamadou Moussa, votre association intervient-elle également sur la protection des enfants qui se retrouvent au cœur de ces litiges divorce, répudiation? Et selon vous, quels sont les droits les plus menacés dans leur situation?
Bonjour tout le monde, merci
Bonjour.
De nous inviter à cette discussion, à ce débat. Nous sommes arrimés à l'État, auquel nous ajoutons notre valeur ajoutée dans la prise en charge des enfants, dans la protection des enfants. Donc notre rôle, c'est on ne se substitue pas à l'État, on essaie de faire ce que les relations entre une association permettre de faire au bénéfice des enfants. C'est dans ce cadre-là que, par rapport à cette problématique, cette question que vous avez posée, nous avons trois grands faisceaux de prise en compte. C'est cette dimension des lois qui existent, qui sont dans la propriété des juges, également cette dimension morale, qui est la dimension que toute personne, qu'elle ait une religion ou non, doit tenir compte du fait qu'à partir du moment où vous concevez des enfants avec une femme et que vous divorcez par ailleurs, ce n'est pas notre affaire de savoir le pourquoi, que vous avez des obligations qui s'imposent à vous. Et également, cet aspect aussi religieux qui est là. Ce qui veut dire que ce faisceau-là, si on essaie de le combiner, c'est ça qui nous permet, à chaque fois qu'on a une plainte, rassurez-vous, c'est toujours la femme qui se plaint, c'est pas les hommes qui se plaignent. Et la femme se plaint tout simplement parce que notre modèle social a fait que c'est l'homme qui est le chef de famille, c'est lui qui prend en charge, c'est lui qui doit assurer certaines choses. Et d'ailleurs, les enfants portent le nom de l'homme. Et au regard de tout ça, à chaque fois que nous avons des cas comme ça, nous les référons au niveau de notre association sur une convocation amicale de venir échanger sur le problème. Et nous essayons de discuter pour voir, dans tous ces faisceaux-là qui existent, quelle est la part que l'homme devrait assurer sans que ça ne soit la loi qui le lui impose, sans que ça ne soit un tribunal religieux qui lui impose, de par la morale, qu'est-ce qu'il est normal de faire. Puisque, normalement, quand il y a une séparation, un acte de droit de l'État du Niger, à travers les juges, doit dire exactement la responsabilité de chacun. L'enfant, il est dans la main de qui? Qui doit assurer quoi? Et à quelle hauteur? C'est ainsi qu'interviendra tout l'arsenal administratif qui consiste à faire les enquêtes, à savoir qui fait quoi, qui a quoi, et au regard de ça, l'homme peut être sans revenu. Donc, dans tous ces cas de figure-là, nous essayons de les ajuster pour qu'ils aient une meilleure orientation, un meilleur comportement vis-à-vis, que les enfants ne soient pas victimes.
Parce qu'il y a des choses... De par votre expérience, qu'est-ce que vous avez observé? Quels sont les droits les plus menacés? Dans quelle situation se retrouvent ces enfants?
Vous savez,
généralement,
dès qu'il y a un divorce, tous les droits, en tout cas principalement ceux que nous avons édités dans toutes les brochures qui sont contenues dans la Convention sur les droits des enfants et même la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants, tous ces droits, dans la mesure où les revenus du père sont en difficulté, tous ces droits sont mis en difficulté. Que ce soit le droit à l'alimentation, que ce soit le droit à un hébergement et à un logement décent. Déjà, les tout premiers. Et le droit scolaire aussi, puisque parfois, le père ne se soucie pas lorsqu'il faut payer. Bien que, si l'État est bien organisé, on n'a pas à payer des droits pour que l'enfant aille au CI, au CP, ou en tout cas jusqu'à un certain niveau. Mais dans beaucoup de cas, cette situation se pose. Parce que l'enfant peut quitter un quartier en faisant partir sa mère, il se retrouve dans un autre, ou c'est forcément dans une école privée qu'il peut avoir la suite de ce qu'il fait, comme scolarité. Donc toutes ces questions, tous ces droits-là sont a priori menacé.
Monsieur Mamar Saïdou, je rappelle que vous êtes assistant social et vous travaillez aux côtés de ces juridictions pour justement situer l'intérêt de l'enfant. Votre travail est déterminant pour les décisions que vont prendre les juges. Alors, comment procédez-vous et à quoi faites-vous attention sur le terrain?
Nous vous remercions.
Merci à vous d'être...
Les services sociaux des juridictions, c'est des services qui ont été créés par arrêté 0041, 28 mars 2014. Et c'est des services qui sont dans toutes les juridictions, notamment dans les 8 régions. La particularité ici, c'est à Niamey, dans les communes, il y a ce qu'on appelle les TAC, les tribunaux d'arrondissement communaux. Tous ces tribunaux ont des services sociaux qu'on augmente des juridictions pour faire la différence entre les autres services sociaux. C'est des services qui sont là pour accompagner les juges, pour prendre des décisions pour l'intérêt supérieur de l'enfant dans, par exemple ici, le cas de divorce. Donc, notre axe d'intervention, on en a plein. On intervient le plus souvent par la préfecture des enquêtes sociales ordonnées par le juge ou par les juges. On intervient aussi pour assurer le suivi psychologique des enfants. On assiste le juge des mineurs pour prendre en charge les mineurs. On intervient aussi dans les familles et dans les centres, dans d'autres centres où les enfants sont là. On intervient aussi à la demande des présidents des tribunaux, des juges des affaires et familiales, les juges d'instruction. Ce qu'ils nous demandent en cas de divorce, d'effectuer une enquête sociale par ordonnance. Nous intervenons par ordonnance. Le juge nous délivre une ordonnance pour effectuer une enquête sociale. Qu'est-ce qu'il veut dans l'enquête sociale? Les personnes concernées, la femme, donc le couple de façon générale, il faut qu'on lui amène des éléments essentiels pour qu'il puisse prendre une décision et la bonne décision. Il faut amener des éléments sur la situation matérielle des deux personnes, sur le comportement des deux personnes, sur les antécédents des deux personnes, qu'elles soient judiciaires ou les antécédents comportementaux ou même psychologiques, la capacité financière de chacun des deux, l'environnement dans lequel chacun est, la relation de ces gens dans leur environnement, dans leur famille, dans leur communauté. Et c'est ce qui lui permettrait de pencher sur ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant, dans la décision qu'il aura à prendre. C'est quoi l'intérêt supérieur de l'enfant? C'est tout ce qui est nécessaire, avantageux, pour le bien-être de l'enfant, que ce soit l'ordre moral, psychologique, environnemental, éducatif. C'est tout ce qui est nécessaire pour son bien-être.
Ouais.
Voilà ce que nous devrons lui recueillir, il demande. Maintenant, avec ça, nous procédons à l'enquête sociale en tant que telle avec différentes étapes. Les différentes étapes, c'est quoi? Quand le juge nous délivre cette ordonnance, dans la première étape, on fait venir les concernés, que ce soit la femme ou le mari. Nous, personnellement, nous l'écoutons. Et à travers des questionnaires, nous avons un guide qui est là, qui est élaboré. Nous avons un certain nombre de questions auxquelles la personne va répondre, qui va nous guider nous-mêmes. Après les avoir entendus, que ce soit le mari aujourd'hui ou demain, l'essentiel qu'ils ne soient pas ensemble, on va faire une visite à domicile pour voir est-ce que ce qu'il nous a raconté, est-ce que c'est vrai dans l'environnement. Parce que le plus souvent, les gens se parlent pour s'arranger. Maintenant, quand vous vous transportez dans les lieux, il y a d'abord chez lui. Vous entretenez avec lui chez lui. Vous entretenez avec les membres de la famille. Vous entretenez avec l'enfant s'il peut discerner, s'il discerne, c'est-à-dire qu'il peut comprendre quelque chose. Ensuite, vous effectuez à son insu des entretiens avec les voisinages, dans le quartier, dans son lieu de travail, avec certains amis. Donc, ça vous permet d'avoir le maximum de renseignements sur la personnalité, parce que l'objectif, la personnalité.
Et le parent qu'il est pour cet enfant.
Qui il est.
Oui, en tant que parent.
La mère, qui il est le père. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. La personne a toute une histoire. Tu dois faire ressortir cette histoire, son histoire de vie, de son enfance à là où elle est.
Justement, avec tout le travail que vous faites, Madame Salima Dougou Fatima, je rappelle que vous êtes la directrice de la protection juvénile au niveau du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Avec tout ce travail qui est fait, comment on se retrouve? Parce qu'on voit souvent les mamas qui ont d'office les gardes, surtout des jeunes enfants. Comment on se retrouve avec des mamans qui sont dans le désarroi total?
Merci madame. Donc, on fera toujours référence à la loi qui dit que lorsque les juges constatent cette rupture, qu'elle soit la répudiation ou le divorce, il doit statuer, soit dans le même PV qu'il constate la répudiation, il prend une ordonnance aux fins des gardes d'enfants dans laquelle il doit préciser le montant de la pension alimentaire. Là, il faut préciser, c'est en fonction des revenus et de la situation du père.
Okay.
Parce qu'on ne peut pas imposer un montant qu'il ne peut pas respecter dans la mise ou dans le paiement. Les frais scolaires sont à la charge du père, de la scolarité. Les frais médicaux, lorsque l'enfant est malade, il est obligé de les soigner parce que c'est les droits les plus élémentaires. Donc, dans la pratique, les juges, ils essayent de concilier. Il y a d'autres couples qui viennent déjà devant le juge. Ok, on s'est entendu, je vais lui verser telle somme. L'enfant sera chez elle, je vais payer sa scolarité. En cas de maladie, je lui ai dit d'aller dans telle clinique, soigner l'enfant et je paye. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quand même, d'autres femmes exigent à ce qu'elles le constatent par écrit. Dans le cas où les couples n'arrivent pas à s'entendre, le juge, il mentionne le montant. Maintenant, dans notre témoignage,
oui.
Voilà, elle dit c'est tel montant, il n'a pas amené. La loi va plus loin, le code pénal prévoit lorsque deux versements qui n'ont pas été faits, la femme peut revenir et exiger à ce que le juge reconvoque ses maris. Il y a des poursuites pénales parce que la loi prévoit des peines allant de 2 mois à 2 ans d'emprisonnement pour défaut de paiement de la pension alimentaire. Mais souvent, on ne va pas jusque là-bas.
Jusque là, oui.
Parce qu'il y a un enfant, il faut le protéger. Il ne faut pas faire en sorte que les parents deviennent des ennemis. Donc, il faut concilier. Souvent, il faut négocier. Ok, toi, tu fais un effort. C'est ton enfant. Il faut l'amener souvent à la raison. Parce que lorsqu'il y a rupture d'un couple, je n'ai pas à vous le dire, chacun campe dans sa position et c'est sur un terrain de guerre où tous les coups sont permis. Quand même, la loi au Niger, actuellement, elle a prévu et les sanctions. Mais le montant, il faut préciser que le juge ne prend pas un montant qu'il doit imposer. Il faut qu'il demande qu'est-ce que le mari fait. C'est un maçon, c'est un enseignant, c'est un DG de société. Donc, tout dépend de son revenu et en fonction de ça, il doit préciser la pension alimentaire.
Ok, revenons vers l'association islamique avec Oustaz Ahmadou Mustapha. Comment une structure comme l'association islamique arrive-t-elle à situer l'intérêt des enfants en fixant le montant de la pension alimentaire et en octroyant la garde des enfants à l'un des parents? Sur quelle base? Ici, au niveau des juridictions, nous avons une enquête qui est faite. Et de l'autre côté, comment ça se passe?
Vous savez, au niveau du religieux, où les officiers d'état civil en religieux, qui sont des auxiliaires des tribunaux, en fait, les décisions où, pour trancher, c'est presque la même procédure. C'est-à-dire, le Coran ni les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas précisé un chiffre arithmétique par rapport à ce genre de choses, par pitié, ni sur l'âge de l'enfant, quel enfant devrait ceci, ou bien à quel âge il devrait ceci. Ça, le Coran a évité, Allah a évité de dire les chiffres. Mais ici, il a dit de donner leur salaire. Ce sont des choses qui se négocient avant le mariage. Malheureusement, on ne respecte pas. C'est-à-dire, on ne prévoit pas les divorces avant même le mariage. C'est là-bas que vous allez vous entendre avec la femme. On a même les versets appelés ça.
À ce niveau, on a dépassé le divorce qui touche les parents. D'un enfant, on peut passer à 3-4 enfants. Comment l'association arrive à situer l'intérêt de 4 enfants sur tout ce qui concerne leur santé, leur éducation, l'alimentation ou même les loisirs? Comment ils arrivent à déterminer ça?
Vous savez, par rapport à cette question, madame, il n'y a pas de distinguo. C'est pourquoi Abu Hamid Ghazali, qui est un leader, un érudit de l'islam, il a dit, en fait, le cause de tout conflit, que ce soit le conflit social, que ce soit le conflit armé, que ce soit le conflit de tout genre, c'est les refus de satisfaire les besoins des personnes avec qui on vit, c'est-à-dire les papas avec ses femmes, ses enfants. C'est les refus de satisfaire les besoins de ces enfants-là, que toi-même t'es mis au monde-là, qui est la cause principale des choses. Vous êtes tenu, dès lors que l'enfant a prononcé voilà ce qu'il veut, vous êtes tenu de lui promettre, c'est-à-dire de le faire. Si vous prenez la promesse, donc vous le faites. Si vous ne le faites pas, vous serez demandé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et la juridiction, même d'ici, dans ce monde d'ici-bas, là, l'enfant peut porter plainte. Il va dire que non, moi j'ai demandé en toute légalité, j'ai demandé telle chose là, pour ma part là. Et je sais que mon papa peut le faire, il ne l'a pas fait. Donc c'est pour éviter qu'on en arrive là, la confrontation entre les parents et les choses, que l'islam a précisé qu'il faut étudier les besoins des uns et des autres, des enfants qui étaient mis au monde.
Poursuivons avec nos échanges avec nos invités. Je rappelle à nos auditeurs qu'aujourd'hui, nous traitons dans le forum du studio Kalangou de la protection juridique des droits de l'enfant après le divorce des parents. Monsieur Mahamadou Moussa, vous êtes de l'association pour la lutte contre le travail des enfants. Quelle appréciation faites-vous de la protection des droits de l'enfant après le divorce des parents, telle qu'elle est garantie au niveau de la justice ou de l'association islamique? Votre analyse de cette...
Mon analyse, c'est qu'il y a véritablement des zones d'incompréhension par les deux parents, des décisions et des décisions de justice, et même de ce que dit la religion, ou d'incompréhension, ou même de méconnaissance, qui font que on ne connaît que les informations d'ordre général. On sait qu'un homme, c'est lui qui est le chef de famille, c'est lui qui... les enfants portent son nom, et que c'est lui qui a le droit de décider. Mais lorsque ça va vers la question qui fâche, c'est la question d'argent. Et la question aussi de la direction que les deux parents donnent à leur séparation.
Parce que lorsque une séparation prend une allure de rupture totale, définitive, parfois ça devient des difficultés énormes qu'il faille gérer entre les deux parents. Et voilà là où nous arrivons parfois à intervenir en circulant entre les différents textes et lois et obligations qui existent, en attirant l'attention des parents sur le fait que dans l'intérêt supérieur de l'enfant, il y a un intérêt moral qu'un enfant doit avoir dans une ligne que les parents doivent tracer avant sa naissance pour qu'ils sachent que l'enfant ne doit pas être au courant des bagarres, des insultes, des situations de tiraillement entre le père et la mère. Même si c'est douloureux pour la mère, puisqu'en général, c'est la femme qui subit. C'est l'homme qui applique le divorce, c'est l'homme qui chasse. Il est très rare de voir une femme qui dit « je veux partir avec mes enfants ». Ça existe, c'est vrai, mais dans la forme générale, c'est l'homme qui, non seulement qui répudie, mais parfois aussi c'est lui qui demande le divorce. Et c'est lui qui doit assurer les moyens. Et il a toujours cette réticence à donner l'argent en pensant qu'il entretient une femme pour quelqu'un d'autre, au lieu que de penser qu'il doit entretenir ses enfants qui sont avec une femme, qui qu'elle soit son épouse ou qu'elle soit son ancienne épouse ou qu'elle soit une femme qu'il prend comme ça, pour qu'elle assure le soin à ses enfants, la santé à ses enfants, l'alimentation à ses enfants, la scolarité et le suivi qui oblige à faire attention à beaucoup de choses. Parce qu'un enfant, il est dans des phases d'apprentissage, des phases de validation de ce qu'il reçoit de la société. De croissance, si vous voulez, sur le plan physiologique, sur le plan physique. Donc, il va falloir avoir quelqu'un qui fait extrêmement attention à ça, qui devrait être normalement payé, pas le père. C'est vrai, Oustaz l'avait dit tout à l'heure, mais je crois que du point de vue moral, un père qui se sent, en tout cas socialement intégré, doit penser à ça, sans que ça n'ait de relation avec le devenir. Peut-être qu'il pense un jour qu'il va ramener la femme, ou bien qu'elle, elle va œuvrer pour qu'elle s'éloigne encore plus de lui, ou bien qu'elle revienne un peu chez lui. Tous ces éléments-là peuvent se conjuguer pour donner vraiment parfois un cocktail qui est difficile à analyser. Nous, notre rôle, c'est d'attirer leur attention. Faites attention à ce que cet enfant-là n'ait pas une mauvaise appréhension, que ce soit de son père, que ce soit de sa mère. Pour les enfants, c'est une tutrice pour les enfants, et l'homme doit jouer ce rôle-là. Mais la femme aussi, elle doit tenir compte du fait qu'elle a un ancien mari, c'est vrai. Elle a le père de ses enfants, mais elle est aussi mère de ses enfants. Et qu'elle a aussi sa responsabilité, qu'elle soit pécuniaire, que soit la responsabilité de conserver le moral des enfants pour que dans le cadre de leur éducation, ils ne se retrouvent pas contre leur père ou en lisant un monstre en face d'eux qui est le papa parce qu'il les a fait sortir, il a fait sortir de la maison ou bien parce que. Donc il y a tellement de choses qui méritent d'être prises en compte. Et il y a même des parents ailleurs qui s'entendent à être ensemble. Même si la mère est mariée, le père est marié, d'être ensemble, les deux en face des enfants. Pour que les enfants aient au moins ce sentiment qu'ils ont un père, une mère. Le fait qu'ils ne soient pas mariés, c'est une autre dimension. Ouais. Dans laquelle il faut tout faire pour que l'enfant ne s'y introduise.
Monsieur Mamar Saïdou, dans l'intervention de M. Mahmoud Moussa, nous avons entendu des cas où des enfants peuvent se retrouver hors de la maison familiale, avec leur mère. Alors, dites-nous, vous qui êtes sur le terrain, dans quelle situation peuvent se retrouver ces enfants? Selon vous, quelle est vraiment l'urgence?
Et dans notre travail, comme je l'ai déjà cité plus tôt, nous faisons un peu presque attention à tout. Parce que nous sommes censés amener des éléments qui peut permettre au juge de prendre la bonne décision. Un travail mal fait, vous induisez le juge en erreur. L'enquête sociale a un avis consultatif. Et vous comprenez, c'est un avis consultatif. Donc si vous ratez ces éléments, vous ratez même la décision du juge, vous pouvez l'induire en erreur. Ouais. C'est que le problème en réalité, les gens se conçoivent le divorce comme étant une guerre. Dès qu'il y a divorce, chez l'enfant, psychologiquement parlant, de la même manière, vous avez eu deux personnes sont comme ça divisées, psychologiquement parlant, lui aussi, il est divisé dans sa tête. C'est à la dislocation. Il y a une dislocation de sa personnalité. C'est déjà un danger. Maintenant, on cherche le moindre mal, en fait. Et le moindre mal, c'est de trouver l'enfant là où on pense, avec les éléments qu'on a, qu'il se retrouve et son intérêt supérieur, son bien-être. Mais il arrive malgré tout que les enfants étant chez l'un ou l'autre des parents, l'éducation cause problème. les enfants, en fait, peuvent se retrouver dans la rue. Ils n'ont pas de surveillance, ils n'ont pas de suivi. Le père aussi chargé de les assister, aussi démissionne. Ce qui met toujours encore les enfants en danger dans ces circonstances. Est-ce que vous voyez?
Oui.
Donc, raison pour laquelle il faut faire très attention. Dès lors qu'il y a divorce, les enfants sont vraiment en danger parce qu'il y a une rupture dans sa personnalité. Il y aura, il peut être en situation de manque d'affection. L'absence d'un parent, ça a un impact psychologique sur l'enfant. Le cadre d'épanouissement de l'enfant, c'est au sein de sa famille, présence du père, présence de la mère, et c'est ces deux personnes, leur image, qui constituent, qui rentrent dans la construction de sa personnalité.
Ouais.
L'identification des parents. L'enfant, si c'est un garçon, il s'identifie à son père. Si c'est une fille, elle s'identifie à sa mère. Donc, c'est les valeurs psychologiques qu'il a qui rentrent dans sa construction. Et quand l'enfant est en manque d'un de l'autre, ça, dans le temps, des problèmes psychologiques qui peuvent se poser. Il arrive que les manques d'affection peuvent entraîner des troubles de l'apprentissage à l'école. Tu vas voir des enfants, des parents diversés, ils ont des notes, ils sont en train de chuter.
Et ensuite, ont des difficultés.
C'est des gens qui sont toujours tristes. Tu vois? Et c'est des enfants qui sont toujours anxieux. Et c'est vraiment... C'est des futurs adultes avec beaucoup de problèmes psychologiques.
Ouais. Madame Saleh Madougou Fatima, le sort de ces enfants se retrouve entre les mains des juges en charge des affaires familiales. Alors, quelles sont les difficultés liées à l'exécution de cette charge?
Donc, comme je vous l'ai dit, la justice ne se saisit pas d'elle-même. C'est lorsqu'il y a un problème, on vient devant le juge, qui lui aussi est un être humain comme le couple qui dans lequel ça ne va pas. Donc il applique la loi en tant que tel. Mais je vous rappelle que devant le juge chargé, d'abord il essaie de concilier les couples. Lorsqu'une femme vient, ah monsieur le juge, je vais divorcer, il lui donne un délai de conciliation, un mois, deux mois, pour l'encourager parce qu'il ne faut pas aller à l'extrême. Si il ne peut pas aussi les empêcher de se séparer parce qu'ils ont leurs propres raisons, comme l'a affirmé M. Mahamadou. Mais les juges, dans ce cas, il rend sa décision. Il essaie de faire son maximum pour protéger cette couche vulnérable que sont les femmes, les enfants. Dans le cas où le mari n'arrive pas à exécuter ce sur quoi on l'a condamné, il y a des... la loi, le code pénal a prévu des sanctions, mais souvent on ne va pas jusqu'à. Mais moi, mon appel ici, c'est surtout aux ONG, aux leaders religieux, de sensibiliser les populations, les hommes surtout, et les femmes aussi. Avant de se séparer, il faut réfléchir aux conséquences. Parce qu'actuellement, si vous regardez nos maisons d'arrêt, les quartiers des enfants. On a beaucoup d'enfants détenus. Et quand vous parlez avec ces enfants, ils vous disent, oui, moi, ma mère est partie, j'avais 2 ans. Je grandis chez une grand-mère, elle est décédée. Et puis après, personne ne m'a pris. Donc, je suis laissée à moi-même. Et bon, je suis dans la rue. C'est pourquoi je vole pour manger. Je me suis retrouvée ici. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup de sensibilisation, beaucoup de patience. Les rappeler, les verser en fonction de leurs croyances. Peut-être on peut venir à bout ou quand même protéger le maximum.
Protéger le maximum des enfants. Oustaz, on revient vers vous. Quels sont vos conseils, recommandations ou propositions qui permettront aux parents et aux services en charge de cette question justement de ne privilégier que les intérêts des enfants après le divorce des parents? Vraiment, comment les mettre au devant, même en cas de conflit?
Vous savez, et comme a dit quelqu'un qui a intervenu tout à l'heure, je crois que l'enfant, certaines pratiques, certains tiraillements ne devraient pas être faits devant lui. Ça, au moins, l'islam a interdit ça. Ensuite, l'affection que les deux parents, père et mère, devraient donner à l'enfant, ce sont des choses qui sont strictes, c'est-à-dire les leaders religieux ou les magistrats qui sont chargés de réglementer les choses, ils ont des mécanismes pour décourager même le divorce. L'islam, on n'a pas le temps, sinon il y a beaucoup de versets qui ont montré les stratégies, les voies à suivre pour que l'enfant, ou bien on décourage qu'on en arrive là. C'est pourquoi dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit trois choses, la plaisanterie, et la plaisanterie n'est pas permise. Ces trois choses-là, c'est quoi? Il dit, il y a les mariages, il y a le divorce, et ramener la femme chez elle, c'est-à-dire réconciliation. Il n'y a pas de plaisanterie, c'est-à-dire, c'est strict. Pourquoi? Pour protéger l'enfant. Il ne faut pas que l'enfant soit victime de la chose. Donc, voilà à peu près ce que un leader religieux est en train de faire, c'est de décourager qu'on en arrive à cette décision-là. Et il y a des mécanismes que le Coran a donné et les hadiths ont rapporté, et le prophète a pratiqué ça, et que c'est comme ça qu'on devrait faire. C'est pourquoi nous et les magistrats, nous et les autorités, c'est-à-dire ce sont des jumeaux, comme a dit une sagesse islamique qui dit que Rajulan et Tawamani, deux hommes ou des femmes, ou des personnes, femmes et hommes, sont des jumeaux de la gestion de la cité, des droits des enfants, des droits du foyer. C'est l'autorité et les leaders religieux, ou, si vous voulez, les magistrats. C'est lui qui tranche la question. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question.
Monsieur Mohamed Moussa, pour ce tour de table, l'avant-dernier, pour ce tour de table, alors, selon vous, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux parents et aux services qui traitent de ces situations, de ces enfants qui se retrouvent entre deux parents divorcés, vraiment pour qu'on priorise les intérêts de l'enfant?
Bon, le premier conseil que je donnerais, c'est à l'État lui-même. Vous savez, il y a une loi qui a été prise qui s'appelle la loi sur la protection sociale, qui devrait être une loi qui doit permettre à tout moment de cartographier la vie de l'enfant. Dans quelle situation se trouve l'enfant? L'enfant, il est, c'est vrai, avec son père, sa mère, avec un autre parent. C'est essentiel de l'État, que l'État sache ça. Que l'État aussi prévoie les dispositions pour lui assurer, pour savoir qui lui assure l'alimentation et tous les différents droits. C'est du rôle de l'État de le savoir, d'identifier la personne. Et en cas de rupture, c'est en ce temps que cette machine-là permettrait de savoir les deux parents. En se séparant, ils vont où? Ça peut être des cas où la mère va à 1000 km ou en tout cas très loin du père, ou le père lui-même, c'est parce qu'il va loin, ainsi de suite. Il faudrait que l'État soit le meilleur garant. Le premier garant, c'est l'État. Le deuxième garant, ce sont les parents. Les parents, vous savez, hein, les questions de divorce, quand ça vient, c'est difficile de savoir pourquoi c'est venu, qu'est-ce qu'il faut éviter. Je crois qu'en matière de conseil social, on est toujours allé dans le sens de dire aux parents, faites attention à ceci, faites attention à cela. Mais en dépit de tout ça, lorsque la séparation arrive,
les émotions s'en mêlent.
Et puis c'est presque toujours la catastrophe. Les enfants enregistrent des messages qu'ils ne sont pas censés connaître, et ils vivent des situations qu'ils ne sont pas censés vivre. Parce que les situations, c'est lorsque un enfant pour aller à l'école doit se supplier son parent pour lui donner de quoi manger, ou de quoi faire ceci, ou de quoi faire cela. C'est dans cette optique d'ailleurs que, en 2021, nous avions édicté ce qu'on appelle un mémorandum, qu'on a transmis à au moins un ministre. Nous sommes en train de chercher à le transmettre à tous les autres ministres pour qu'ils comprennent, parmi les soucis que nous avons de protection de l'enfant, les soucis qui sont liés à la prise en charge sur le plan scolaire, sur le plan émotif et sur le plan éducatif, pour que la débinade des parents ne soit pas la cause de la destruction de l'évolution normale d'un enfant.
Monsieur Mamar, un dernier mot à l'endroit de ces parents que vous côtoyez sur le terrain?
Effectivement. Actuellement, vous avez vu, vous constatez qu'on a un problème de société. On a plus de divorces d'ailleurs que de mariages, dans les chiffres qui reviennent. Mais l'un dans l'autre, que les parents comprennent que le divorce a toujours des conséquences très graves pour les enfants. Les conséquences peuvent être psychologiques, éducatives. En réalité, quand vous vous éloignez de l'enfant, vous ne savez pas réellement ce qui se passe. Mais heureusement, avec la justice, le juge, a ce qu'on appelle une ordonnance de suivi. Même au cas où il donne la garde, il nous mandate avec une ordonnance pour voir est-ce qu'en réalité l'enfant est bien chez cette personne à laquelle on l'a confié. C'est ce qu'on appelle l'ordonnance de suivi. Mais d'une manière générale, divorcer, c'est vraiment disloquer la personnalité de l'enfant, surtout s'il n'y a pas eu une prise en charge permettant juste de le rééquilibrer. Je dis rééquilibrer parce qu'il est déjà déséquilibré. Donc, tout ce qu'on peut dire, que les parents prennent patience pour pouvoir se gérer pour l'intérêt supérieur des enfants.
Voilà. Du coup, à l'issue de nos échanges avec nos invités, aujourd'hui, nous rappelons le thème de notre forum à nos auditeurs. Nous avons traité de la protection juridique des droits de l'enfant après le divorce des parents autour de la table. Il était question de vraiment comment situer l'intérêt de l'enfant qui se retrouve entre deux parents divorcés. Alors, nous retenons que ça soit au niveau des justices communaux, que ça soit au niveau de l'association islamique, on essaie dans un premier temps de ne pas arriver au divorce. On essaie de concilier les parents, de leur donner le temps de revenir à de meilleurs sentiments. Et si on n'arrive pas à un résultat concret, voilà, les enfants, on essaie dans les juridictions, grâce à une enquête sociale qui est menée par les assistantes sociales, de situer vraiment où se place l'intérêt de l'enfant, comment préserver ses droits à la santé, à l'éducation, aux loisirs, à l'alimentation. Et au niveau de l'association islamique, c'est également ce qui est fait en analysant quels besoins privilégier de l'enfant, comment privilégier les besoins de l'enfant et comment amener les parents à prendre en compte ses besoins. Alors, comme invité, nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Saleima Dougou Fatima. Elle est la directrice de la protection juvénile au niveau du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Nous avons eu avec nous Monsieur Mamar Seydou, qui est assistant social au niveau du tribunal de l'arrondissement communal, Niamey 5. Voilà. Nous étions avec Oustaz Mahamadou Moustapha, prédicateur et membre du Conseil islamique du Niger. Nous étions également avec Mahaman Moussa de l'Association pour la lutte contre le travail des enfants, ALTEN. Et si vous nous avez pris en cours de diffusion, pas de souci, rendez-vous sur notre site internet www.studiokalangou.org et sur nos réseaux sociaux. Merci à nos invités et à vous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. À la technique, nous étions avec Amina Hassan. On se dit à bientôt.